Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim 68 d'Av Samechet. Bonne écoute et bon limoud.
Donc, puisqu'un des deux sacrifices de son vœu a été invalidé, car il a été offert au pied de l'autel en tant que korban chatat, tzrichah shetavi od chamesh pridin lemala, elle doit offrir à nouveau 5 oiseaux qui seront offerts au sommet de l'autel. Il s'agira donc de 2 couples d'oiseaux de 2 sortes différentes pour accomplir son vœu, puisqu'elle ne se rappelle plus si elle s'est engagée à offrir des pigeonneaux ou des tourterelles. Et le 5e oiseau, c'est parce qu'elle s'était engagée à offrir son vœu en même temps que le sacrifice de son obligation. Elle doit offrir donc le korbanola à nouveau pour compléter son vœu. Cela, mimin echad, si à l'origine elle avait offert une seule sorte de couple d'oiseaux. Donc finalement, elle sait quel est l'oiseau qui a été offert à l'origine. Elle amènera donc un korbanola de la sorte qu'elle avait offert à l'origine, puis 2 couples d'oiseaux de 2 sortes différentes, comme nous l'avons expliqué au Mishneh Minim. Et si à l'origine, elle avait offert ses sacrifices de 2 sortes, donc maintenant, elle ne sait pas quelle sorte d'oiseau a été offert pour son obligation, et donc, quelle est la sorte d'oiseau qui doit être offert comme korbanola pour accompagner son vœu, comme nous l'avons expliqué. Tavishesh, elle offrira donc 6 oiseaux, donc 2 de 2 sortes différentes. Il s'agit des oiseaux qui accompagnent son vœu, puis 2 couples d'oiseaux de 2 sortes différentes pour accomplir son vœu. Netanatan la Kohen, si elle a donné ces 2 couples d'oiseaux qu'elle avait donné à l'origine au Kohen, Ve'ena yodat manatna, mais elle ne se rappelle plus qu'est-ce qu'elle a donné, c'est-à-dire quelle sorte d'oiseau, s'il s'agit de pigeonneaux ou de tourterelles, ou bien un couple était des pigeonneaux et l'autre des tourterelles. Halach HaKohen Ve'asa, le Kohen est parti, il a offert ce sacrifice, Ve'eno Yodea Ma'asa, il ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il a fait, s'il a offert tout au sommet de l'autel en tant que Korban Ola, ou bien tout au pied de l'autel en tant que Korban Khatat, ou bien il a offert moitié-moitié. Donc finalement, il y a ici un maximum de doutes. Donc au pire, elle n'a bénéficié d'aucun sacrifice, mais il est possible quand même qu'un des sacrifices a été valable. Mais on ne sait quand même pas lequel, puisque c'est ainsi. Tzricha arba pridin lenidra, elle doit offrir 4 oiseaux pour accomplir son vœu, car comme nous l'avons dit, elle s'était engagée à offrir un couple d'oiseaux d'une certaine sorte, mais elle ne se rappelle plus si elle s'était engagée à offrir des tourterelles ou des pigeonneaux. Donc elle doit offrir 2 couples d'oiseaux de 2 sortes différentes pour accomplir son vœu, ou shtaim le chobata, et elle doit offrir 2 oiseaux supplémentaires comme korbanola pour son obligation de sacrifice après sa naissance, vechatatachat, et un oiseau qui sera offert comme korban chatat. En fait, comme nous l'avons dit, elle ne sait pas quel des sacrifices a été valable, s'il s'agissait d'un korban chatat ou d'un korbanola. Donc de toute façon, elle doit à nouveau offrir les oiseaux de son obligation. Cependant, comme la Mishnah le dit dans Masechet Kinim Perek Bet Mishnahé, si une femme a offert un oiseau comme korban chatat, elle aura l'obligation d'offrir le korbanola de la même sorte. Mais par contre, si elle a offert au départ le korbanola, celui-ci ne détermine pas la nature de son sacrifice, puisque de toute façon elle doit offrir un korban chatat, et c'est le korban chatat donc qu'elle offrira par la suite qui déterminera quelle sera la nature du korbanola qu'elle offrira. Par conséquent, puisqu'il est possible qu'elle a rempli son obligation d'offrir un korban chatat, elle doit donc impérativement offrir un korbanola de la même sorte, puisqu'elle ne sait pas quelle sorte d'oiseau a été offert. Elle doit donc offrir les 2 sortes d'oiseaux, un pigeonneau et une tourterelle, pour compléter son obligation. Cependant, puisque comme nous l'avons dit, la nature du korbanola ne détermine pas la nature du korban chatat, elle pourra offrir un oiseau comme korban chatat de n'importe quelle sorte, et puisque de toute façon elle offre aussi un korbanola, elle remplit ainsi son obligation, elle n'a pas besoin de tenir compte de la possibilité qu'à l'origine elle avait offert un korbanola. On dira que si à l'origine un korbanola a été offert pour son compte, c'est un simple vœu qui a été offert, mais pas dans le cadre de son obligation. Ben Azaï Omer, Shnei Chataot, tandis que Ben Azaï dit que cette femme doit offrir 2 korban chatat, donc 8 oiseaux, car selon lui, si le Korban Ola a été offert en premier, celui-ci détermine la nature du Korban Khatat qui devra être offert par la suite. Par conséquent, puisqu'il y a la possibilité qu'un Korban Ola a été offert pour son compte, elle doit impérativement offrir un Korban Khatat de la même sorte, puisqu'elle ne sait pas de quelle sorte il s'agit. Elle devra offrir donc deux Korban Khatat de deux sortes d'oiseaux différentes qui seront sacrifiés, mais de toute façon le Kohen ne pourra pas consommer car ils n'ont été offerts qu'à cause du doute. Amar Rabbi Yoshua, Zehu She'amru, c'est cela qu'on a dit à propos du bélier, Kshehu Chai, lorsqu'il est vivant, Kolo Echad, il n'a qu'une seule voix, la voix qui sort de sa bouche, ou Kshehu Met, mais lorsqu'il est mort, Kolo Shiva, il produit sept sons. En effet, avec ses deux cornes, on produit deux trompettes, avec ses deux fémurs, on peut produire deux flûtes, avec sa peau, on peut produire un tambour, avec ses boyaux, on peut produire une harpe, et avec ses intestins, on peut produire un violon. Ceci est une parabole pour illustrer que même s'il avait un doute concernant la nature des sacrifices qu'elle s'était engagée à offrir, elle aurait pu se contenter d'offrir trois couples d'oiseaux, donc deux couples de deux sortes différentes et un couple pour son obligation. Maintenant qu'elle a déjà offert deux couples, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah, et elle ne sait plus qu'est-ce qui a été offert et comment ces sacrifices ont été offerts, elle doit offrir à nouveau jusqu'à 8 oiseaux, selon l'opinion de Ben Azaï, donc deux couples d'oiseaux de deux sortes différentes pour accomplir son vœu, et deux couples d'oiseaux pour son obligation, car il y a la possibilité que le Korban Khatat ou le Korban Ola ont été offerts correctement. Elle doit donc offrir un oiseau de la même sorte pour compléter son obligation. Puisque Rabbi Yoshua complète cette Mishnah, nous voyons qu'il en est l'auteur. Forcément, il est aussi l'auteur de la Mishnah plus haut que nous avons vu, donc Perek Gimel Mishnah Dalet. Or, nous avons vu dans cette Mishnah que lorsqu'il y a la possibilité qu'un Korban Ola a été offert au pied de l'autel en tant que Korban Khatat, celui-ci est invalidé. Selon Rabbi Yoshua, il aurait dû être transformé en Korban Khatat et quand même être valable. L'Agma répond, Emar Dama Rabbi Yoshua, il est vrai que Rabbi Yoshua a dit cela, que le Korban Ola qui a été offert au pied de l'autel à la manière d'un Korban Khatat en tant que Korban Khatat est transformé en tant que Korban Khatat et donc il est valable. La Fuka Mide Meila, c'est uniquement pour annuler l'interdiction de Meila et donc celui qui en profite ne transgresse plus l'interdiction de Meila. Le Misakla Lechova Miamar, a-t-il dit cela? Donc que ce sacrifice est valable pour qu'il remplissent l'obligation que cette personne avait d'offrir un Korban Khatat, c'est-à-dire puisqu'à l'origine c'était un Korban Ola, il a été sacrifié d'une manière incorrecte, donc en fait il devrait être invalidé. Cependant, nous considérons ce sacrifice comme étant un sacrifice valable pour annuler l'interdiction de Meïla, mais quand même, le propriétaire devra offrir un autre sacrifice, donc un autre Korban Khatat pour remplir son obligation. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Samer Zayin. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Samerchet au milieu de la page à la Mishnah. Alors la Mishnah dit, nous lisons la parenthèse, Kol Hapsulim, tous ceux qui sont invalidés pour effectuer le service dans le Beit HaMikdash, chez Malkou, qui ont sacrifié un oiseau offert comme sacrifice en sectionnant son cou, Milikatan Psula, leur sacrification est invalidée, autrement dit, le sacrifice est invalidé. Cependant, Ve'eno metame bevetablia, cet oiseau ne transmet pas l'impureté du cadavre d'un oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Et cela, car nous ne considérons pas que cet oiseau est mort et donc est un cadavre, mais plutôt qu'il a été sacrifié, car, comme nous le verrons dans le 9e chapitre, lorsqu'un sacrifice est sacrifié par une personne qui ne peut pas effectuer le sacrifice, quand même, si on le fait monter pour l'offrir sur l'autel, on n'a pas besoin de le refaire descendre. Autrement dit, finalement, il s'agit quand même d'un sacrifice. Son invalidité n'est pas totale. Par conséquent, la sacrification est valable, au moins pour annuler l'impureté du cadavre de l'oiseau. Malak Besmol, s'il a sacrifié cet oiseau en utilisant sa main gauche au balayla ou bien la nuit, ou bien Shachat Chulin Bifnim, s'il a égorgé un oiseau profane à l'intérieur du sanctuaire, ou dans la cour du sanctuaire, il est donc interdit d'en consommer, ve kodashim bachutz, ou bien il a égorgé un oiseau désigné comme sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, enan metamot bevet ablia, ces oiseaux ne transmettent pas l'impureté du cadavre d'un oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Et cela car dans les deux premiers cas, l'invalidité n'est pas totale, donc comme nous l'avons expliqué dans le premier cas de la Mishnah, et dans le deuxième cas, puisque ces oiseaux ont été égorgés, même si on ne peut pas les consommer, quand même, il ne s'agit pas d'un cadavre d'un oiseau, ils ne transmettent donc pas l'impureté. Par contre, Malak Besakin, s'il a sectionné le cou de l'oiseau avec un couteau, donc en plantant un couteau dans son cou, il ne s'agit donc pas d'une sacrification d'un sacrifice, car cette sacrification qui se fait en sectionnant le cou ne se fait qu'avec l'ongle et non pas avec un couteau. Il ne s'agit pas non plus, il ne peut pas s'agir non plus d'un égorgement, car dans ce cas où il plante le couteau dans le cou, donc la pointe du couteau qui sectionne les organes vitaux est cachée par les vertèbres de cet oiseau. Cela s'appelle chalada, c'est-à-dire égorgé alors que le couteau est caché, par exemple par les organes vitaux ou d'autres parties de l'animal. Et comme la Gemara l'explique dans Masechet Chulin Daf Kaf Amud Bet, lorsqu'un animal est égorgé de cette manière, il est interdit de consommer l'animal. D'ailleurs, cet animal a le statut de cadavre animal. Voir le Rashba et le Levarié dans Masechet Chulin Daf Lamed Amud Bet. Malak Chulin Bifnim, s'il a sacrifié donc, sectionné le cou d'un oiseau profane à l'intérieur de la cour du sanctuaire, Vekodashim Bachutz, ou bien des oiseaux sacrés, donc des sacrifices. Il les a sacrifiés de cette manière à l'extérieur du sanctuaire.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Samechet Amudbet. Torin Sheloi Geazmanam, ou bien s'il a sacrifié des tourterelles avant qu'elles n'aient atteint le stade de maturité à partir duquel on peut les offrir comme sacrifice, ou bneona shavarzmanam, ou bien des pigeonneaux qui ont dépassé l'âge ou le stade où on peut les offrir comme sacrifice. En effet, les tourterelles ne peuvent être offertes comme sacrifice qu'à partir du moment où elles ont des plumes jaunes autour du cou, et les pigeonneaux peuvent être offerts comme sacrifice jusqu'à ce qu'ils aient des plumes jaunes autour du cou. Donc, dans ces cas, le sacrifice est invalidé. Shiyavsha gapa, ou bien s'il a offert un oiseau dont un des membres s'est desséché, shenismit ena, ou bien un oiseau dont un œil était crevé, veshinikte aragla, ou bien un oiseau dont une des pattes était coupée. Dans tous ces cas, le sacrifice est invalidé d'une manière totale. Par conséquent, nous considérons que cet oiseau a le statut d'un cadavre d'un oiseau, metame bevetablia, il transmet donc l'impureté du cadavre de l'oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Zéaklal, voici la règle générale. Kol shepsulo bakodesh, partout où son invalidité a lieu dans la cour du sanctuaire, c'est-à-dire dans le cadre de sa sacrification, eno metame bevetablia, cet oiseau ne transmet pas l'impureté du cadavre de l'oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Dans ce cas, nous ne considérons pas que cet oiseau a simplement été tué, mais plutôt il a été sacrifié. Lo haya psulo bakodesh, mais si son invalidité n'a pas lieu dans la cour du sanctuaire, c'est-à-dire elle existe même avant qu'il ne rentre dans la cour du sanctuaire, donc cette invalidité existe en dehors du cadre de sa sacrification, par exemple lorsqu'il était infirme. Donc en fait, il est invalidé avant d'être offert comme sacrifice. Metame bevetablia, il transmet l'impureté du cadavre de l'oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Autrement dit, nous considérons que cet oiseau est tué. Par conséquent, il a l'impureté du cadavre de l'oiseau. D'ailleurs, comme nous le verrons dans la Gemara, la manière de déterminer s'il s'agit d'une invalidité dans le cadre de la sacrification ou non, cela dépend si pour ce type d'invalidité, il existe un cas où le sacrifice est valable. Voir le Taharat HaKodesh qui explique longuement ce passage. En Lagmara dit, Amar Rav, Smol Velaila, si l'oiseau a été sacrifié avec la main gauche ou pendant la nuit, En Metam'in Bevetablia, l'oiseau n'aura pas le statut d'un cadavre d'oiseau et ne transmet donc pas l'impureté lorsqu'une personne l'avale. Nous considérons donc qu'une sacrification a eu lieu et par conséquent, il n'y a pas d'impureté. Zar Vesakin, par contre, si c'est un étranger qui n'est pas Kohen, ou bien si le Kohen a sectionné le cou de cet oiseau avec un couteau, Metam'in Bevet Abliya, ce sacrifice a le statut d'un cadavre d'oiseau qui transmet l'impureté lorsqu'on l'avale. En Lagmara demande, Maishna Smol, quelle différence y a-t-il entre le cas où l'oiseau a été sacrifié avec la main gauche? Nous disons que c'est dans le cadre d'une sacrification. Par conséquent, le sacrifice n'a pas le statut d'un cadavre d'oiseau. C'est parce que de Itle Hershera Beyomakipurim, car cette invalidité d'effectuer un service avec la main gauche a une dérogation que le service avec la main gauche est valable à Yom Kippour. En effet, lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim pour faire brûler l'encens, il porte la pelle contenant les braises avec sa main droite et l'encens avec sa main gauche. Donc finalement, nous pouvons considérer qu'il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Par conséquent, si on a fait monter un sacrifice qui a été sacrifié avec la main gauche sur l'autel pour y être brûlé, on ne le fera pas descendre. Donc finalement, la sacrification a servi à quelque chose et c'est pour cela que le statut d'impureté ne prend pas effet. Velaila et aussi le service effectué la nuit, la raison pour laquelle nous considérons que cette invalidité est dans le cadre d'une sacrification, c'est parce que Itle Hershera Be'evarim Updarim. Il existe une dérogation qu'en fait, le service effectué la nuit est valable lorsqu'il s'agit de faire brûler les membres et les graisses des sacrifices qu'effectivement on fait brûler la nuit. Alors si c'est ainsi, Zardami, en ce qui concerne l'étranger qui n'est pas Kohen, il y a aussi une dérogation, Itle Hershera Beshrita. Il existe un service qui est valable lorsqu'il est effectué par un étranger qui n'est pas Kohen, lorsqu'il s'agit de la sacrification des sacrifices. En effet, même un étranger qui n'est pas Kohen peut le faire. Puisque c'est ainsi, on devrait considérer cette invalidité comme une invalidité qui n'est pas totale. Et donc, si on fait monter un sacrifice qui a été offert par un étranger qui n'est pas Kohen, on ne devrait pas le faire descendre. Et donc, la sacrification a servi à quelque chose et l'impureté du cadavre d'oiseau ne devrait pas prendre effet. Avec ma réponse, Shrita Lav Avodahi, la sacrification du sacrifice n'est pas considérée comme étant un service spécial du sanctuaire, car finalement, cette sacrification ou l'abattage de l'animal existe partout, même pour les animaux profanes. On ne peut donc pas prouver de là qu'un autre type de service propre au sanctuaire, effectué par un étranger qui n'est pas Kohen, ne cause pas une invalidité totale, pour dire dans notre cas que l'impureté du cadavre d'oiseau n'existe pas. La Gemara demande, Velo, est-ce que la sacrification de l'animal n'est pas considérée comme étant un service spécial du sanctuaire? Veha Amar Rabizera, Shritat Para Bezar Psula. La sacrification, l'abattage de la vache rousse effectuée par un étranger qui n'est pas Kohen est invalide. Ou Mahve Ravala, et Rav a fait un signe de sa main en expliquant que Elazar Vechuka, dans le paragraphe concernant l'offrande de la vache rousse, le pasouk dit que c'est Elazar le Kohen donc qui abattra, donc effectuera la sacrification de cette vache. Et dans ce paragraphe, le pasouk emploie le terme de Chuka qui veut dire une loi, qui insiste sur le fait que tout ce qui est écrit dans ce paragraphe est impératif. Nous apprenons de là que c'est impératif que ce soit un Kohen qui sacrifie la vache rousse. Donc, si nous voyons que même pour la sacrification de celle-ci, un étranger qui n'est pas Kohen ne peut pas le faire, si quand même pour la sacrification des autres sacrifices, un étranger qui n'est pas Kohen peut le faire, ce fait devrait nous servir de base pour considérer qu'un autre type de service effectué par un étranger ne cause pas une invalidité totale et l'impureté du cadavre d'oiseau n'existerait pas même si l'oiseau a été sacrifié par un étranger. L'agma répond, Sha'ani para, en ce qui concerne la vache rousse, c'est différent de Kochebe de Gapaiti, car celle-ci est considéré comme étant un objet sacré pour la réfection du temple, car en fait, il ne s'agit pas d'un sacrifice qui est sacrifié dans le sanctuaire, et n'a donc pas la sainteté spéciale des sacrifices. Alors la Gemara demande, « Velav kol dekenu, ne peut-on pas présenter un raisonnement a fortiori, « Koche bedekabait baokouna » si déjà des objets sacrés pour la réfection du temple nécessitent un Kohen pour les offrir. Lorsqu'il s'agit de la vache rousse, « Koche misbeach mibaya » A-t-on besoin de nous le dire que c'est nécessaire pour les sacrifices destinés à être offerts sur l'autel? Même s'il est vrai que la Torah permet aux étrangers qui ne sont pas Kohen de sacrifier les sacrifices, mais en tout cas, ceci pourrait constituer une preuve que le service effectué par un étranger qui n'est pas Kohen ne cause pas une invalidité totale. La Gemara répond donc pour réfuter ce raisonnement a fortiori, Amar Rav Shisha Bereh Deravidi, Mideh Dave Amar Ot Negaim. Le fait que la sacrification de la vache rousse nécessite un Kohen ressemble aux lois des plaies ou des taches de lèpre qui doivent être vérifiées par un Kohen. De Lav Avodai, en fait, cette vérification pour voir si cette plaie a la couleur requise pour être considérée comme étant de la lèpre n'est pas un service du sanctuaire. Ubaya Keunai, quand même, la Torah exige un Kohen pour cela. Donc finalement, il existe des actions qui ne sont pas des services qui nécessitent quand même un Kohen. Il en sera de même pour la sacrification de la vache rousse, qui n'est pas considérée comme un service spécial, puisque finalement il ne s'agit pas d'un sacrifice qui est offert dans le sanctuaire. Il est possible quand même que la Torah, pour une raison spéciale, a exigé un Kohen pour le faire. Mais en fait, nous restons toujours sur nos positions que la sacrification du sacrifice n'est pas considérée comme étant un service spécial du sanctuaire, comme nous l'avons expliqué. Alors la Gemara demande, « Venilaf mibama » On n'a qu'à apprendre des sacrifices offerts dans les autels privés à l'extérieur du sanctuaire, lorsqu'il est permis de le faire. L'offrande des sacrifices sur un autel privé ne nécessite pas l'intervention d'un Kohen. Ceci pourrait être une preuve qu'un service effectué par un étranger qui n'est pas Kohen ne cause pas une invalidité totale. La Gemara répond, « Mibama loyalif ». Nous n'apprenons rien de l'autel privé, car étant donné que l'autel privé se trouve par définition à l'extérieur du sanctuaire, nous considérons que l'autel privé est en fait quelque chose de profane par rapport au sanctuaire. La Gemara demande, « Velo, n'apprend-on pas des lois concernant l'offrande des sacrifices sur l'autel privé ?» Ben, Tania, pourtant, il est enseigné dans une braïta. « Minayin leyotse » D'où sait-on que si les membres d'un sacrifice sont sortis du sanctuaire avant d'être offerts sur l'autel, chez Imala Loyered, que si on a fait monter ces membres ou ces graisses sur l'autel pour être brûlés, on ne les fera pas redescendre de l'autel, on pourra les laisser être brûlés sur l'autel, chez Hare Yotse Kasher Bebama, car le principe du sacrifice qui sort de son enceinte est permis, valable, lorsque ce sacrifice est offert sur un autel privé. Nous voyons donc que nous apprenons des lois des sacrifices offerts sur l'autel privé, que les parties du sacrifice qui sortent ne causent pas une invalidité totale. Il devrait en être de même pour le service effectué par un étranger qui n'est pas Kohen. La Gemara répond, en fait, nous n'apprenons rien des lois des sacrifices offerts sur un autel privé, mais plutôt Tana, l'auteur de cette braïta, Azot Torat Ha'ola Samichle, s'appuie essentiellement sur le pasouk dans Vaikravav qui dit « Voici la loi concernant le Korban Ola ». Comme la Gemara l'explique plus loin, Daf Pedalet, ce pasouk est traduit de la manière suivante « Voici la loi générale concernant ceux qui montent pour être brûlés sur l'autel ». De là nous apprenons une généralité que tout ce qui est monté sur l'autel pour y être brûlé devra y être laissé. Cependant le terme « Zot », ceci, exprime une exclusion. Donc finalement, d'une part, nous avons une inclusion pour dire que tout ce qu'on fait monter sur l'autel devrait y être laissé, mais d'autre part, il y a une exclusion pour dire que certaines choses ne pourront pas y être laissées. Et finalement, la Gemara conclut que toute invalidité qui arrive dans le sanctuaire, donc comme nous l'avons expliqué plus haut, dans le cadre de l'offrande du sacrifice, ne cause pas une invalidité totale. Par conséquent, si on fait monter sur l'autel un sacrifice atteint de ce type d'invalidité, on ne le fera pas redescendre. Mais s'il s'agit d'un type d'invalidité qui survient à l'extérieur du sanctuaire, donc pas dans le cadre de l'offrande du sacrifice. Ce type d'invalidité est une invalidité totale, même si on fait monter le sacrifice atteint de cette invalidité sur l'autel, on le fera redescendre. Donc, en ce qui concerne le membre du sacrifice qui est sorti de son enceinte, il s'agit d'un type d'invalidité qui survient après la sacrification de l'animal, donc dans le sanctuaire. Ce type d'invalidité n'est pas total. Donc finalement, nous n'apprenons rien des lois concernant l'offrande des sacrifices sur l'autel privé. En ce qui concerne le sacrifice qui a été sacrifié avec la main gauche ou pendant la nuit, puisqu'il s'agit de types d'invalidité qui ont une dérogation comme nous l'avons vu précédemment, nous considérons ce type d'invalidité comme un type d'invalidité qui survient dans le sanctuaire, donc dans le cadre d'une sacrification. Ce type d'invalidité ne causera pas une invalidité totale. Mais en ce qui concerne l'oiseau qui a été sacrifié par un étranger qui n'est pas Cohen, puisque nous ne trouvons pas de dérogation au sujet d'un service effectué par un étranger qui n'est pas Cohen, nous considérons que ce type d'invalidité survient à l'extérieur du sanctuaire, c'est-à-dire nous ne considérons pas qu'il s'agit d'un type d'invalidité qui survient dans le cadre de l'offrande d'un sacrifice, puisqu'en fait, l'offrande du sacrifice n'a pas lieu. Puisque c'est ainsi, il s'agit d'une invalidité totale, donc l'oiseau sacrifié ainsi sera considéré comme le cadavre d'un oiseau qui est impur. Rabbi Yochanan Amar, Zar en metamea betablia, un oiseau qui a été sacrifié par un étranger qui n'est pas Cohen, n'est pas considéré comme étant le cadavre d'un oiseau et ne transmet pas l'impureté qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Rabbi Yochanan apprend cela des lois des sacrifices offerts sur l'autel privé, où nous voyons que l'offrande du sacrifice peut être effectuée même par un étranger qui n'est pas Cohen. Et de là, nous pouvons prouver que le service effectué par un étranger qui n'est pas Cohen ne cause pas une invalidité totale. Sakin, mais si l'oiseau a été sacrifié, donc son cou a été sectionné avec un couteau, dans ce cas, nous considérons que l'oiseau a été tué. Il est donc considéré comme étant le cadavre d'un oiseau, metame abetablia, et transmet donc l'impureté qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Donc finalement, le point de discussion entre Rav et Rabbi Yochanan, c'est uniquement concernant le cas d'un oiseau désigné comme sacrifice qui a été sacrifié par un étranger qui n'est pas Cohen. En Gemara dit Nan, il a été enseigné dans notre Mishnah, Kol Hapsulim Shemalku Melikatan Psula, etc. Tous ceux qui sont invalides pour effectuer le service dans le Beit HaMikdash, qui ont sacrifié un oiseau désigné comme sacrifice en sectionnant son cou, leur sacrification est invalide. Cependant, cet oiseau ne transmet pas l'impureté qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Alors, Bishlama, les Rabbi Yochanan, on comprend bien encore ce passage de la Mishnah selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Kol, le terme kol qui est une inclusion, les itou yezar, vient inclure l'étranger qui n'est pas Cohen, pour nous enseigner donc que s'il a sacrifié l'oiseau, celui-ci n'est pas considéré comme étant le cadavre d'un oiseau. Et là, les Rav, mais selon l'opinion de Rav, kol, les itou yemai, que vient inclure le terme kol, puisque selon lui, l'étranger qui n'est pas Cohen n'est pas inclus dans ce passage de la Mishnah. Lav leituye smol velaila, n'est-ce pas que ce passage, selon Rav, viendrait inclure le cas d'un oiseau qui a été sacrifié avec la main gauche ou bien pendant la nuit? En fait, ce n'est pas possible, car smol velaila behediaktane. Ce cas de l'oiseau sacrifié avec la main gauche ou pendant la nuit est enseigné clairement dans la Mishnah. L'Agma répond, tane vehadar mefaresh. La Mishnah a d'abord enseigné la règle générale, puis après, elle explique de quoi il s'agit. En fait, donc, selon Rav, il ne faut pas comprendre ce passage de la Mishnah comme parlant de personnes qui sont invalides pour effectuer le service dans le Beit HaMikdash, mais en fait, la règle générale concerne les invalidités, donc les situations invalidantes qui surviendraient pendant la sacrification de ce sacrifice. La Gemara dit Tashma, viens écoute une preuve d'un autre passage de notre Mishnah. La Mishnah disait à Klal, voici la règle générale. Kol shehaya psulo bakodesh, partout où il s'agit d'une invalidité qui survient dans la cour du sanctuaire, donc dans le cadre de l'offrande du sacrifice, enom etame begadim abetablia, l'oiseau qui a été sacrifié de cette manière ne transmet pas l'impureté qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. Et cette impureté, en fait, se transmet même aux habits de la personne qui les porte lorsqu'il mange ce cadavre d'oiseau. En la Gemara demande, Bishlama le Rabbi Yochanan, on comprend bien encore ce passage de la Mishnah selon Rabbi Yochanan, kol, le terme kol qui est enseigné à la fin de la Mishnah, les ituyezar vient inclure l'étranger qui n'est pas Kohen qui a sacrifié cet oiseau. Et là le Rav, mais selon l'opinion de Rav, les ituyemai, que vient inclure ce terme kol?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.